les enjeux internationaux.
Thierry Garcin, bonjour.
Et bonjour Guillaume Werner, donc tout de suite en partenariat avec les enjeux internationaux. Demain sur Arte à 19h30, le Mekong, cartographie politique, comment les six États partagent-ils le fleuve. Donc Arte, les enjeux internationaux et surtout le dessous des cartes. Alors de l'Indochine à la Chine avec notre invité Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS CERI. La Chine et les ONG pris d'une façon un peu métaphorique et générique. La notion de société civile d'ailleurs est déjà floue et complexe dans les pays occidentaux. Elle est encore moins facile à définir ou à délimiter en Chine. L'expression des revendications y est pourtant plurielle dans les domaines de l'environnement, de la défense, de la liberté d'expression, de la presse, des droits de l'homme, de la religion. Et puis il faut mentionner que les ONG internationales sont sévèrement encadrées ou surveillées, leur statut, leur rôle, leur marge de manœuvre, leur influence. Tout cela donc avec Jean-Philippe Béja.
Écoutez, bien sûr, la Chine est un pays dirigé par un parti communiste et les partis communistes aiment bien exercer le monopole sur l'économie, la politique et le social. Alors évidemment, le Parti communiste chinois a abandonné largement son monopole sur l'économie, mais il le tient absolument sur le politique et il a été obligé de faire un certain nombre de concessions sur la société civile. La société civile n'est toujours pas institutionnalisée. On peut dire que les premières ONG sont apparues en 1995 et dès 98, il y avait une loi qui exigeait pour les reconnaître qu'elles s'inscrivent auprès du ministère des Affaires civiles, mais qu'elles aient ce qu'on appelle une unité publique qui leur serve de parapluie, hein, qui soit garante pour elles. Alors on comptait environ 400 000 ONG il y a un ou deux ans, mais en réalité il y en a plusieurs millions. Mais la plupart des ONG, ce qu'on appelle des ONG de grassroots, ne peuvent pas s'inscrire en tant qu'organisation non gouvernementale. Elles ont donc utilisé toutes sortes de subterfuges et très souvent, elles s'inscrivent comme compagnies, hein, comme entreprises. Évidemment, dans ces conditions, elles ne bénéficient pas d'exemption d'impôt et le parti peut utiliser cette arme pour se débarrasser d'elle. Alors disons que elles ont relativement fleuri au début des années 2000 et on parlait largement d'une société civile chinoise, y compris sous les dernières années du règne de Hu Jintao et Wen Jiabao. Il y avait un certain nombre de trous à l'intérieur du contrôle, ce qui fait qu'on a vu arriver des ONG, alors bien sûr dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la charité, naturellement, mais aussi dans le domaine de défense des ouvriers, et grâce à un engagement de plus en plus fort des avocats sur les questions des droits de l'homme, ce qu'on appelait le mouvement de défense des droits civiques, on en a vu apparaître dans la défense des droits humains de façon assez claire. Il y avait des ONG anti-discrimination, et en plus, malgré les exigences de la loi qui disent que les ONG ne peuvent pas exister au niveau national, il y avait, grâce aux nouvelles techniques de l'information, un certain nombre de rapports entre ces organisations non gouvernementales à tous les niveaux. On avait donc, par exemple, une organisation qui existait dans pratiquement toutes les provinces, l'organisation de lutte contre la discrimination qui s'appelle UNPing, et qui avait aussi d'ailleurs un certain nombre de financements de l'étranger, car il est très difficile pour les ONG de défense des droits d'obtenir des financements en Chine. Donc voilà un peu quel était le panorama jusqu'à l'avènement de Xi Jinping. Il y avait une certaine tolérance, hein, notamment dans le sud de la Chine, où il y a énormément d'usines et où la stabilité sociale était inséparable de l'existence d'ONG de défense des ouvriers qui canalisait un peu les revendications.
Justement, Jean-Philippe Béja, quels sont les secteurs d'activité où les ONG, on va les appeler comme ça d'une façon générique, sont les plus actives, et est-ce qu'on peut parler d'un renforcement encore plus contraignant de l'appareil législatif et peut-être juridique ?
Alors, si vous voulez, bon, bien sûr, il y a le domaine de l'environnement qui est sans doute le domaine le moins sensible politiquement, mais on voyait aussi de plus en plus un développement des ONG de défense des droits des ouvriers et de défense des droits des exclus en général. Et ces ONG n'existant que par le financement des ONG étrangères, le parti a décidé de se retourner contre ça. Et il vient d'adopter une loi sur les organisations non gouvernementales étrangères qui est très comparable, si vous voulez, à celle de Poutine. Vous savez qu'en Russie, les ONG qui reçoivent des financements étrangers doivent s'inscrire comme agents de l'étranger. Là, ce qu'on a fait, c'est que les ONG internationales doivent s'inscrire auprès de la police, ce qui est une chose évidemment extrêmement risquée. Et elles doivent avoir, elles aussi, un partenaire chinois qui doit demander leur inscription. La plupart des partenaires chinois, évidemment, vont pas prendre le risque d'inviter une ONG étrangère qui pourrait ensuite être soupçonnée d'être subversive. De plus, elles ne peuvent pas avoir de programme à plus d'un an, elles doivent se réinscrire chaque année, et on a vu pour les avocats que c'est un moyen de contrôle extrêmement fort. Dans ces conditions, l'espace qui s'ouvre aux ONG grassroots, hein, de base, est évidemment énormément rétréci. Donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais disons que les ONG internationales sont en train de se poser la question de savoir si elles vont pouvoir continuer à faire leur travail en Chine. Les ONG chinoises, naturellement, d'une part, ont sont confrontées à ce problème de financement, mais en plus, elles sont confrontées à une offensive de la part du gouvernement qui est très très fort depuis 2013. Disons que d'abord, ce sont les ONG relativement politiques qui, par exemple, lutter contre la corruption, demandait les equal opportunities qui ont été les premières victimes. Et puis ensuite, on a eu les organisations féministes, après les organisations ouvrières, et aujourd'hui, ce sont les organisations de défense de l'environnement qui sont extrêmement inquiètes. Donc il y a une politique délibérée de restriction de l'espace ouvert aux ONG qui sont considérées comme, vous savez, en chinois, on dit organisations non gouvernementales. En fait, ce sont des organisations anti-gouvernementales. Ce qui fait qu'on n'utilise plus ce terme en chinois, on l'utilise maintenant en anglais, on ne parle plus que de NGO, mais aujourd'hui, NGO, c'est devenu subversif.
Oui, alors justement, j'ai vu que la sécurité de l'État, ou la menace contre la sécurité de l'État, est très facilement invoquée par les autorités.
La plupart des animateurs d'ONG qui ont été arrêtés sont arrêtés pour incitation à la subversion ou mise en danger de la sécurité de l'État. Et ça, c'est bien sûr quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi autre chose, dans la collaboration avec les ONG internationales, c'est une nouvelle loi sur les secrets d'État qui est extrêmement restrictive et qui fait que à peu près tout est un secret d'État. Dans ces conditions, le cadre législatif reste extrêmement contraignant. Alors, bien sûr, ce qui est encore possible, sans doute, c'est que vous savez, en Chine, on a beaucoup de... Les zones grises ont été restreintes, mais il y a toujours des moyens très créatifs de pouvoir contourner ces lois. C'est de plus en plus difficile, c'est beaucoup plus risqué, y compris pour les ONG internationales, et il faut voir si elles seront, si elles voudront véritablement prendre ce risque, mais il pourra sans doute y avoir des possibilités. Mais bien sûr, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour l'environnement que pour, par exemple, la défense des droits des ouvriers ou la défense des droits humains en général. Malgré ça, les militants de ces ONG, malgré les arrestations, malgré le danger, continuent d'être relativement actifs.
Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS série, franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.